soigner tout de suite pour l'ordi.
Merci.
Alors, eh bien, aujourd'hui, j'aimerais continuer l'évangile de Jean. On avait commencé l'évangile de Jean la semaine dernière. Et donc, on va prendre la suite. On va prendre Jean, chapitre 1, et versets 15 à 34. Jean 1. Versets 15 à 34. On va lire ce texte ensemble. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? » Il répondit « Non. » Et lui dire alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ta grâce et merci Père pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, et qui ne cesse de nous enrichir, nous faire du bien. Seigneur, et nous te demandons encore ta bénédiction. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Seigneur, veuille nous bénir, nous enrichir, nous encourager. Seigneur, nous porter par les Écritures. Père, bénis et cache-moi en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans ce texte, l'accent est mis sur le témoignage de Jean. Alors, quand je dirais Jean, je ne suis pas en train de parler de l'évangéliste, c'est-à-dire de celui qui a écrit l'évangile, mais à chaque fois je parle de Jean-Baptiste. Hein. Donc, l'accent est mis ici sur le témoignage de Jean. Et en fait, c'est qu'est-ce que Jean a fait ? Qu'est-ce qu'il a compris ? Qu'est-il au juste ? Jean répond à ces questions et à celles que les Juifs lui posent directement, celles qu'il lui pose directement, à savoir, que dis-tu de toi-même ? Toi, vas-y, qu'est-ce que tu es en fait ? Et dans les réponses de Jean-Baptiste, on voit un trait de caractère qui ressort de tout le texte, qui s'impose à nous, c'est l'humilité. Et donc, j'aimerais vous parler de l'humilité. Et l'humilité, vous savez, c'est comme une vertu insaisissable. Quand on se dit « ça y est, je l'ai », ben non, je ne l'ai plus. C'est que je l'ai perdu. Je suis plus humble. C'est quelque chose qu'on voit peut-être chez les autres, mais on ne peut pas le voir chez soi si on est réellement humble. En fait, on se voit plutôt comme un gros orgueilleux, quoi. Hein? Ça, c'est la réalité. Une illustration, à Washington, un jour, Bill Clinton, il a essayé de se libérer d'un portrait qui n'était pas très flatteur de sa personne. Alors, eh bien, il a encouragé publiquement les chrétiens conservateurs à ne pas condamner les motifs et le caractère des gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Car s'ils pouvaient regarder dans mon âme, dit-il, ils verraient quelqu'un qui a une croyance en Dieu sincère, profonde et plus vraie que la leur. Et quelqu'un qui est probablement beaucoup plus humble dans sa foi chrétienne que beaucoup d'entre eux. Et là, ah ça y est, il a franchi la ligne rouge, hein. Il a dit une parole de trop qui finalement eh bien, se retourne contre lui et le discrédite. Parce que l'humilité est perdue dès qu'on pense qu'on la possède. Les Juifs ont envoyé à Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour demander à Jean, « Mais toi, qui es-tu ?» Ils se demandaient, « Mais est-ce que ce n'est pas le Élie, le prophète, hein, celui que Malachie avait prophétisé ?» Donc à la fin de Malachie, à la fin de l'Ancien Testament, Malachie pointe le doigt vers l'Élie qui doit venir. Alors il dit, « Mais est-ce que tu n'es pas Élie? Est-ce que tu n'es pas le prophète ?» Ou bien même, « Est-ce que tu es le Christ ?» Il dit, « Non, ah non, 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 certainement pas. Je ne suis pas le Christ, hein. Je ne suis pas Élie, non. Je ne suis pas le prophète. » Et dans toutes ces réponses, on se dit, mais en fait, Jean-Baptiste ne se voyait pas comme quelqu'un d'important. En fait, il n'avait même pas conscience de ce qu'il était. C'est incroyable, hein ? Pas conscience de ce qu'il était, puisque nous savons que, en fait, Jean-Baptiste, c'était l'Élie qui devait venir. Hein ? Parce qu'un jour, les disciples ont posé la question à Jésus, et Jésus a dit, oui, Jean, eh bien, c'est l'Élie qui devait venir. C'est le prophète dont Malachie a prophétisé. Mais Jean-Baptiste ne se voit pas comme important. Il a une opinion humble, une opinion effacée. Hein, il est en retrait. Comment se voit-il ? Verset 23, il dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Il se voyait simplement comme une voix. « Je suis une voix qui crie dans le désert. » Et il criait dans le désert. Dans le désert d'Israël, hein, où les cœurs étaient durs, étaient secs, étaient loin de Dieu, il était là dans ce désert, hein, et il criait, quel était son message ? Aplanissez le chemin du Seigneur. Et quand il dit ça, eh bien, il cite même Ésaïe, il dit même ça ne vient pas de moi, hein, c'est Ésaïe le prophète. Hein. Alors à quel passage il faisait référence ? Je vous le lis courtement. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Et en fait, le message, c'est celui-ci, c'est préparez un chemin pour le Seigneur, pour l'Éternel, aplanissez tous les lieux arides et faites une route propre, nette, pour notre Dieu. Et l'œuvre de Jean-Baptiste, hein, c'était de préparer les cœurs à la venue de Jésus. Lorsqu'il dit « aplanissez les chemins, hein, le chemin du Seigneur », en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire « humiliez-vous ». Humiliez-vous, c'est tout. Et le cœur de son message, c'est la repentance. La repentance. Il appelait les hommes, les femmes à se repentir pour préparer leur cœur au Seigneur. Et puis à même descendre dans les eaux du baptême comme un témoignage de la réalité de leur repentance. Je fais une courte parenthèse. Hein. Le baptême auquel Jean-Baptiste appelait n'est pas le baptême au nom de Jésus, hein, par lequel peut-être vous avez été baptisé, hein, parce que vous avez cru en Jésus-Christ. C'est deux baptêmes différents. Lui, c'était un baptême qui était un signe de la repentance sincère dans le cœur des Juifs. Et donc, Jean appelait à l'humilité. Soyez humble. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité, vous savez, pour se repentir et reconnaître son péché. Il faut énormément d'humilité. Il n'y a qu'une personne humble qui est capable de dire « Je me repens, j'ai péché. j'ai péché. L'orgueilleux, lui, il reste droit dans ses bottes, il n'avoue rien, il est sûr de lui, sûr d'être dans son droit, sûr d'être parfait, juste. Et Dieu ne voulait pas trouver les Juifs avec un cœur comme ça, et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Ils étaient droits en train de dévisager Jésus et de le juger. Jean criait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et donc il était question de reconnaître ses fautes, de reconnaître qu'il n'avait pas bien agi, qu'il n'était pas aussi religieux, aussi spirituel qu'il le pensait. Non, reconnaissez vos péchés, humiliez-vous, repentez-vous. Quand vous prenez le Nouveau Testament et vous continuez à lire, et notamment les Épîtres, eh bien vous allez trouver un pendant qui va aussi nous concerner, nous. Dans l'Épître de Pierre, en 1 Pierre 5, 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et on voit le message n'a pas changé, même pour nous chrétiens. Le message est toujours le même, même si on est né de nouveau, on est appelé à avoir des cœurs humbles qui acceptent, qui se repentent devant le péché. S'humilier sous la puissante main de Dieu, c'est se mettre à genoux et reconnaître quand Dieu met le doigt quelque part. Oui Seigneur, c'est vrai, je le reconnais. C'est reconnaître la réalité de ses manquements, de ses faillites, voilà. C'est être aussi sincère, honnête, droit avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. C'est la réalité, c'est la réalité. Et c'était ce qui a manqué à beaucoup de juifs contemporains à Jean-Baptiste, qui refusèrent. Ils avaient une opinion élevée d'eux. Voilà, nous sommes la nation d'Israël, nous avons la parole de Dieu, nous savons, on a toute cette expérience derrière nous. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, lui, ce fils de charpentier, là ? C'est même pas la peine. Et Dieu nous appelle à la repentance. Il nous appelle à aplanir un chemin pour le Seigneur. Et on ne peut pas vraiment accueillir Christ si on est hautain dans notre cœur. Si notre cœur est dur, eh bien Dieu se tient éloigné. Forcément. En fait, il n'y a qu'un cœur qui est humble et petit où Jésus peut s'approcher, Jésus peut remplir, il peut se manifester. Je me souviens d'un message d'un évangéliste qui était intéressant. Il parlait de la porte étroite. Et ça m'est resté. Il disait que la porte est étroite, elle est petite, elle est basse. Il faut se courber pour y entrer. Il faut s'humilier, il faut s'incliner. On n'y rentre pas la tête haute. Et il disait, les orgueilleux s'y tapent le front. Et ça, c'est une réalité. Il faut se baisser et se courber devant le Seigneur si on veut passer la porte étroite. Et Jean-Baptiste appelait à ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Et à s'humilier, à descendre, à préparer un chemin pour le Seigneur. Ensuite, quand vous lisez le texte, on peut regarder Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même, son exemple. Regardez dans le texte, versets 26 et 27, nous lisons. Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. » Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ça veut dire, je ne peux même pas toucher ses sandales, effleurer ses pieds. Non, je suis indigne d'effleurer les pieds du Seigneur Jésus-Christ. C'était impossible pour lui. Il ne s'en sentait pas digne. Pourquoi ? Parce qu'il avait une haute, haute estime du Fils de Dieu. Et lui, il se voyait comme tout petit, petit, minuscule, indigne et pécheur. Voilà. Je suis tout en bas et lui, c'est le Fils de Dieu. Et c'est aussi ainsi qu'est une personne humble. Encore une fois, elle ne se prend pas pour quelqu'un d'important. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Regardez Romains 12, verset 3. Romains 12, Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, de nouveau, il dit, mais voilà, n'ayez pas une trop haute opinion de vous, mais ne vous voyez pas comme très sage, très intelligent, très mature, très spirituel. Non, revêtez-vous de modestie, d'humilité. Et Jean-Baptiste nous montre l'exemple. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Baptiste? Il a dit une parole très très forte. Il a dit, en Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. » Et c'est sûr que la majeure partie de nos difficultés ici-bas, de nos différends les uns avec les autres, des erreurs parfois que nous faisons, des péchés que nous commettons, ça vient du « moi ». Ça vient du « moi », de la chair qui est en nous. C'est le « moi » qui prend trop de place. C'est ça notre vrai problème. Vous savez, quand on va arriver au ciel, on va être libéré de cette chair. Et là, ce sera terminé. Mais là, en attendant, on a ce problème, le péché qui est en nous. Et Jean-Baptiste nous enseigne une vérité précieuse. Et il nous apprend qu'il n'y a qu'une solution pour être délivré de ce « moi » qui nous remplit, c'est que Christ vienne nous remplir. Alors, il expulse le « moi » et Christ prend la place. Il n'y a que ça comme solution. Il dit, il faut qu'il croisse et moi que je diminue. Le « moi » ne sera jamais expulsé totalement avant le retour du Seigneur. Mais si on laisse Jésus-Christ vivre en nous, Christ met le pied dessus. Et il est tout petit. Et Christ vit. Et c'est ça le but, c'est que Christ remplisse et que le moi, il n'est pas la parole. Il soit tout petit. Comment il peut croître d'une manière concrète en nous? Comment le Seigneur peut croître? Il faut qu'il ait le contrôle de notre vie, Ça veut dire le contrôle de mes pensées parce que je veux avoir les pensées du Seigneur. Contrôle de mes paroles parce que je veux dire les paroles du Seigneur. Contrôle de mes actions. Je veux que ce soit Jésus qui agisse au travers de moi. Voilà. Laissez Jésus vivre en nous. Ça, c'est le but. C'est ce que Dieu veut. Mais c'est possible que si on lui dit « Seigneur », c'est une décision consciente. On dit « Seigneur, je veux que ce soit toi qui vive en moi. » Voilà, je renonce à moi-même. On l'a chanté ce matin. Je veux mourir avec toi et que toi, tu vives en moi. C'est ça. Et quand Jean dit « il faut qu'il croisse et que je diminue », il est en train de dire « il faut qu'il vive et que je meure ». C'est ça. Quand moi, je suis mort, alors il vit. Il vit en moi. Et on voit Jean-Baptiste qui ne voulait pas. Il s'efforçait de ne pas être sur le devant de la scène. Il ne cherchait pas à ce qu'on se souvienne de lui. Son but, c'était d'être un poteau indicateur. Et dire, c'est Jésus. Regardez à Jésus. C'est lui. Regardez verset 29. Donc dans Jean 1, 29, il dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » qui ôte le péché du monde. Et il montrait constamment le Seigneur. Le but, c'était de ne jamais attirer les regards sur sa personne en disant, mais regardez-moi, je suis un prophète. J'ai baptisé déjà 250 personnes. Non, pas du tout. C'est, regardez, c'est lui. On est tous là pour lui. C'est lui qui est important, Jésus-Christ. C'est lui qui doit être aimé, qui doit être vu, qui doit être désiré. C'est lui l'important. Versets 35 et 37, un petit peu plus bas. 35 à 37. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Et là, le but est atteint. Le but est atteint ici. Jésus est vu, il est aimé, il est mis en avant, il est suivi. Jean-Baptiste disparaît. Il s'efface. Il faut qu'il croisse et moi, que je diminue, que je diminue. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Si on aime Dieu, si on aime notre Seigneur, eh bien, on va adopter la même attitude que Jean-Baptiste. Celle d'une personne humble qui pointe sans cesse vers Jésus et qui ne cherche pas à attirer les regards sur elle d'une manière directe ou indirecte. Vous savez, parce que des fois, la chair, elle est... c'est déroutant, quoi. La chair, elle peut dire... elle peut dire des choses comme « Le Seigneur a fait ceci par moi. » Et finalement, c'est encore le moi qui vient se mettre là alors qu'il ne devrait pas apparaître. Dieu attend de nous l'humilité. Et vous savez, l'humilité, c'est la seule chose qui convient à la créature. La gloire, elle ne nous sied pas bien. C'est pas pour nous, c'est pour lui seul. C'est comme une œuvre d'art. Vous regardez une sculpture ou une peinture, et ben c'est pas l'œuvre en elle-même que vous allez glorifier, hein, mais vous allez dire, oh, mais quel artiste. Oh, dis donc, quand je vois une sculpture là dans du marbre, vous voyez les drapés et c'est incroyable, hein. Ils arrivent à donner un rendu de tissu dans une pierre dure. Mais ce n'est pas la pierre, c'est l'artiste, hein, qui a passé des heures et qui a façonné. Ben, c'est pareil. Nous, ce n'est pas pour nous la gloire, c'est pour le Créateur. C'est lui qui façonne. Hein. Et quand il fait une belle chose, bonne, merveilleuse, ben, gloire à Dieu! Voilà, on se tourne vers lui et on l'adore et on dit, waouh, Seigneur, t'as bien fait ça. Hein? Et toute la gloire te revient, à toi seul, la gloire. Moi, j'y suis pour rien. Il y a ce verset qui dit, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, voilà, il y a quelque chose de beau, de parfait, ben, c'est lui. Si vous voyez un truc qui ne va pas dans mon message, ben, c'est moi. C'est toujours ça. C'est quand c'est beau et parfait, c'est lui. Et quand ça ne va pas, ben c'est nous. Il faut se dire, ben, là, c'est moi. J'ai mal agi. Il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et maintenant, j'aimerais parler du Seigneur lui-même, en fait. Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et pourquoi une colombe? Alors, ben, la colombe, on l'a pris comme un symbole universel de la paix, hein, dans le monde, mais la colombe, c'est aussi l'animal humble, doux, hein, par excellence. Et si l'Esprit de Dieu a pris la forme d'une colombe pour se rendre visible, une colombe délicate qui s'est posée sur Jésus, eh bien c'était aussi pour nous montrer cet esprit d'humilité, hein, qui descendait et qui allait imprégner toute la vie de notre Seigneur. On l'a lu tout à l'heure, hein, dans ce verset de Matthieu 11, hein, Jésus est doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. D'abord par rapport à l'apparence. Jésus n'a pas cherché à paraître. D'ailleurs, il n'était pas particulièrement beau. Les Écritures le disent. Pourtant, c'était Dieu. Il aurait pu se faire le visage qu'il voulait, le corps qu'il voulait. Et pourtant, il a choisi de ne pas être particulièrement beau. Volontairement. Il avait un corps, un visage banal. Voilà, sans éclat. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. Hein. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait même rien pour nous plaire. Voilà. Il était commun. Jésus n'a pas cherché à attirer les regards par son apparence. Il n'a pas choisi d'être particulièrement beau parce que dans sa nature, il était humble. Et ce n'est pas pour rien qu'il est né comme un simple homme, là, dans une petite étable. Ensuite, par rapport au succès mondain, Jésus était humble. Jésus ne cherchait pas à flatter les foules par ses discours et ses paroles. Jamais ça a été son but. Il n'était pas comme un homme politique qui va chercher à ratisser le plus large possible pour rassembler en choisissant ses mots. Par exemple, il n'a pas cherché à ne pas choquer les uns, ne pas brusquer les autres, à satisfaire un autre groupe. Et il n'a pas eu le succès, autant de succès que ça, justement parce qu'il a fait ce choix-là. Au contraire, encore Ésaïe nous dit, il fut méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà, il était méprisé, il était humilié, on se détournait de lui, mais Jésus était humble. Parce qu'il ne cherchait pas le succès, il cherchait la vérité. La vérité. Que la vérité, eh bien, transparaisse. Ensuite, par rapport à la richesse, Jésus encore était un homme humble. Vous connaissez ce verset, où il est dit, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et il n'habitait pas dans une villa somptueuse, romaine, de l'époque. Non, il dormait à la Belle Étoile. Et puis, souvent, il dormait chez quelqu'un, et notamment, il était beaucoup à Capernaum, chez l'apôtre Pierre. Et il se contentait de ce qu'il possédait. Aux yeux du peuple, eh bien, c'était un homme simple, un homme qui était abordable. On peut vouloir des belles, des grandes choses qui manifestent un certain standing, mais quand vous regardez l'exemple de Jésus, ça ne vous y encourage pas trop. Ensuite, par rapport à sa position sociale également, Jésus était humble. Il n'était pas connu comme quelqu'un dans la haute société, c'était un ouvrier. Un simple ouvrier. Il avait un travail d'ouvrier. On lit encore dans Matthieu, n'est-ce pas le fils du charpentier ? Un charpentier. Et quand on le voit enseigner les Écritures, eh bien on s'étonne, parce qu'on se dit, mais un charpentier, il n'a jamais étudié les rouleaux de la Torah. Comment il sait toutes ces choses ? C'est pas possible. Et on est dans un monde où on dévalue... les travaux manuels, ça c'est la réalité. J'ai lu des articles sur la pénurie que l'on a à trouver des jeunes qui veulent travailler, simplement travailler. C'est aujourd'hui, vous savez ce qu'on veut faire, YouTuber et gagner des milliers d'euros rapidement. Voilà, c'est ça. Et faire clic-clic et se filmer, faire des vidéos. Mais Christ, a été un charpentier. Pendant 15-20 ans, là, il a raboté, et quand j'utilise le rabot électrique, je me dis waouh, Seigneur, quand on scie à la main, et que nous on a notre scie là, qui c'était dur, c'est voilà. Et quand on travaille, c'est dur, la vie est dure. On fait des tâches qui sont ingrates et qui sont répétitives, et qui voilà. Mais Jésus était humble et il a fait ça. Le Fils de Dieu, il a fait ça pendant 15 ou 20 ans. Et Dieu nous demande de travailler. Même si ça ne correspond pas en tout point à nos espérances, parfois, il veut qu'on travaille. Ensuite, par la royauté, Christ était humble. Si vous prenez Jean 13, verset 5, on ne va pas faire tout le texte là, puisqu'on le verra prochainement, certainement, mais... simplement lire quelques versets, Jean 13, verset 5, il dit, « Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Incroyable. Le Fils de Dieu qui se met à genoux, et qui se met à laver les pieds des disciples, lui qui était pourtant le Seigneur, eh bien, il était capable de s'abaisser et de descendre. Alors, parfois, on voit un supérieur qui fait preuve d'humilité et qui s'abaisse. Et je lisais une illustration sur Abraham Lincoln. Un jour, il a voulu plaire à un politicien. Et donc, il voulait déplacer des troupes pour plaire à ce politicien. Et il y avait son secrétaire de guerre, hein, de la guerre, Edwin Stanton. Il a reçu l'ordre, il a refusé de l'exécuter, il a dit « Lincoln est un idiot ». Et alors, la réponse de Lincoln, elle est quand même incroyable. Il va dire « Si Stanton a dit que j'étais un idiot, alors ce doit être vrai, parce qu'il a souvent raison. Je verrai cela par moi-même. » Puis après, ils ont discuté ensemble, puis il s'est rangé à l'idée, bien sûr, c'était pas la bonne décision à prendre. Et simplement, voilà, quelqu'un d'élevé qui s'abaisse, on trouve aussi hein, ça, des personnes élevées qui font preuve d'humilité. Mais ici, quel président va laver les pieds de ses concitoyens? Est-ce que Macron va se mettre à genoux et... Non, on ne le voit pas trop. Hein. On ne le voit pas trop. Et Jésus, lui, eh ben, il a passé ses doigts entre les orteils de ses disciples, ses créatures, pour enlever la poussière hein, et faire couler de l'eau. C'est la véritable humilité. S'abaisser, devenir un serviteur des autres. Regardez Jean 13 à 15, un petit peu plus bas. Il dit, « Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et là, bah vraiment le Seigneur, il nous dit, « Descendez, descendez, occupez-vous des membres les moins honorables du corps. Hein. » Humiliez-vous. Alors, est-ce qu'on est prêt à avoir cette attitude humble de celui qui s'abaisse, de celui qui va servir, de celui qui va demander pardon, qui va s'humilier, qui va s'effacer, qui va se mettre en retrait, qui ne va pas chercher à attirer sur lui, mais toujours à ce que Jésus soit mis en avant. Peut-être qu'il y a des choses, on se dit... C'est dur quand même. Hein. Oh, ça semble au-delà de mes forces, ça. Seigneur, non, j'y arrive pas. Mais il y a une bonne nouvelle. Regardez, c'est le verset 33, si on reprend Jean 1, verset 33. On lit, Jean-Baptiste dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » C'est une bonne nouvelle, ça. C'est merveilleux. Christ est venu mourir pour nos péchés. Il est venu ressusciter hein, pour nous donner la vie. Mais il est venu aussi pour nous baptiser de l'Esprit, de cet Esprit. Ça veut dire que Dieu nous a donné son Esprit, le même qui était en Jésus, que l'on a vu en Jésus se manifester tout au long de son ministère. On a le même esprit qui est en nous. Et si on s'est repenti de nos péchés, si on a cru au Seigneur, on l'a accepté, il est descendu, il est entré dans notre cœur, on a l'esprit d'humilité de Jésus. Il est là. Et il ne demande qu'à vivre, qu'à s'exprimer. Je l'ai dit au début, l'humilité, c'est une vertu insaisissable. Mais quand on s'occupe du Seigneur, et que notre désir le plus cher, c'est que lui, il grandisse, hein, il croisse, et que nous, nous diminuions, eh bien, ça s'opère, ça se réalise, ça devient une réalité. L'esprit de Christ va commencer à nous changer, à nous transformer, et puis à prendre la place, puisqu'on lui laisse. Il dit, Seigneur, je ne veux pas vivre. Moi, je veux mourir avec toi, vivre cette journée avec toi, et que ce soit toi qui fasses les œuvres, et qui parle, et qui agisse. Et plus on le fait, plus ça devient une réalité. Et on meurt à soi-même. Et là, eh bien, on va cesser de s'élever soi-même, hein, cesser peut-être de chercher une gloire quelconque, hein, la vaine gloire d'avoir raison, j'ai raison, la gloire de se sentir un peu au-dessus, supérieur, la gloire de se vanter de ses œuvres. Tout cela, ça n'a plus d'importance. Terminé. Il faut qu'il croisse et moi, je diminue, moi je disparais en Jésus. En Jésus. Il faut qu'il vive et que moi je meure. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il s'est effacé, il a laissé toute la place à Christ qui en était digne, à Dieu le Fils. Regardez, je termine sur ce verset. Verset 34, Jean-Baptiste dit « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Voilà, c'est lui l'important, c'est lui le Créateur. On va avoir un moment de prière. Si vous voulez lui rendre grâce, vous pouvez le faire librement.